Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Viseur. Alors aujourd'hui je suis en compagnie du commandant Paul, vous êtes capitaine de corvette dans la marine nationale et aujourd'hui vous venez nous raconter une histoire d'opération, d'intervention, je crois qui est en fait assez récente, qui était juste avant que, un petit peu avant que vous entriez à l'école de guerre puisque je crois que c'est en 2017, alors racontez-nous c'était où ?
Alors effectivement c'était une opération de lutte contre la pêche illégale en Guyane, qui s'est déroulée au mois de juin 2017. Pourquoi juin ? Puisqu'en fait, c'est le début de la belle saison en Guyane et c'est le début de la saison des pêches, puisque la mer se calme un petit peu et c'est le retour des pêcheurs illégaux dans cette zone.
Ils pêchent quoi ?
Alors, c'est principalement des poissons qui sont qu'on appelle de l'acoupa ou du mâchoiran. Ce sont des poissons typiquement guyanais. Qui vivent dans des eaux dans cette région et qui sont sont des eaux très poissonneuses.
Donc votre mission, c'est quoi ? C'est de réguler, disons, les pêcheurs qui sont dans la zone de pêche française ?
Alors, notre mission là-bas, c'est que vous avez beaucoup d'intrusions de la part de pêcheurs illégaux qui viennent de différents pays de la région et qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Non seulement ils pêchent, ils font des ravages et en plus, ils ont tendance parfois à faire du braconnage contre nos propres pêcheurs français.
C'est-à-dire qu'ils viennent rançonner les pêcheurs français quoi, en plus ?
Exactement. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, un pêcheur français en Guyane a le droit à un filet qui mesure 1500 mètres. C'est la réglementation européenne. Les pêcheurs illégaux qui viennent arrivent avec des filets qui mesurent entre 10 et 15 km. Chaque filet, chaque bateau en emporte un ou deux, et il est parfois arrivé d'avoir dans nos eaux plus de 30 navires illégaux. Donc ça vous donne un petit peu le nombre de kilomètres de filets que vous avez à l'eau, minimum 300 km. Ces filets ont des chutes de 6 mètres et ils pêchent en très proche côtier.
Chute de 6 mètres, ça veut dire qu'ils ont une épaisseur dans l'eau, une hauteur
exactement.
Dans l'eau de 6 mètres.
Okay. Et donc, ils pêchent en très proche côtier dans des fonds qui sont à peu près de 6-7 mètres.
Donc
vous n'avez rien qui passe, absolument rien, des petites mailles. Et donc, c'est un carnage, c'est un véritable carnage.
Mais alors du coup, avec des bateaux aussi grands, j'imagine que c'est... Pardon, avec des filets aussi grands, j'imagine que c'est plutôt des grands bateaux, quoi.
Pas forcément, ce sont des bateaux qui sont très spécifiques, qu'on appelle des tapouilles, qui sont des bateaux en bois qui peuvent aller entre 10, 15, 20, 30 mètres. C'est déjà un peu plus rare, mais vous avez à peu près une vingtaine de mètres pour déjà une bonne tapouille. Et donc, ils emportent un ou deux filets. Chaque bateau a un équipage qui va être à peu près de...
Oui, c'est ça. J'allais vous demander, il faut combien de gens pour une bonne tapouille
puisque... Il faut à peu près entre 5 et 10 pêcheurs. Donc, vous avez un armateur qui généralement a son bateau, a acheté son bateau et son filet. Le prix du filet, c'est la moitié du prix du bateau. C'est quand même assez onéreux. Cet armateur va recruter différents pêcheurs locaux, généralement proches des frontières guyanaises, et il va armer son bateau comme ça.
Ok, et donc votre mission, c'est quoi ? C'est de... comment est-ce que vous faites ?
Alors, notre mission, c'est principalement de faire du contrôle des pêches. Et donc, pour faire du contrôle des pêches...
Mais parce qu'en fait, voilà ma question, et très exactement, c'est... Ça se reconnaît, un bateau étranger, par rapport à un bateau, disons, guyanais, à la forme ?
Non, ou... non c'est, les c'est... bateaux français ressemblent... Ce sont aussi des tapouilles et ressemblent fortement aux bateaux étrangers.
Donc il faut qu'ils s'identifient pour...
Et donc notre but, c'est de nous approcher suffisamment près pour pouvoir identifier et savoir si c'est un pêcheur illégal ou un pêcheur français. Ce qui mérite quand même une certaine connaissance de la zone, des zones de pêche.
Ouais, et c'est quoi comme bateau qui fait ça ?
Alors, en Guyane, vous avez deux bateaux qui sont des patrouilleurs. Ça, ce sont les bateaux de la Marine nationale. Plus, comme nous sommes dans un cadre qui s'appelle l'action de l'État en mer, le préfet sur place a également la possibilité d'utiliser les bateaux de la Gendarmerie nationale, mais aussi des douanes, au profit de cette mission de police qui est la surveillance des pêches. Donc, dans l'opération dont je vais vous parler, qui s'est tenue en 2017, nous avions les deux patrouilleurs de la Marine nationale, nous avions les deux vedettes...
Donc, c'est des patrouilleurs. Vous, donc, ce sur quoi vous étiez, c'était un patrouilleur.
Moi, tout à fait. Je commandais un patrouilleur et j'étais, en fait...
Dites-nous le nom, parce qu'il est joli.
C'était la Gracieuse.
Ouais.
Et je commandais tout le dispositif et j'avais sous mes ordres, à la mer, les deux navires de la Marine nationale, les deux vedettes de la Gendarmerie maritime, plus des moyens aériens de l'état-major interarmé, et tout un dispositif sur la mer, des vedettes, des petites embarcations qui appartenaient à chaque bateau.
Oui, parce qu'en plus, la Guyane, c'est grand, quoi. Il y a quand même beaucoup de kilomètres de côte à réguler, donc ça peut pas se faire qu'en bateau, il faut aussi des patrouilleurs, des...
Exactement. Donc, mais...
Enfin, des patrouilleurs aériens, je voulais dire.
Oui, alors dans le cadre de cette opération, il fallait qu'on puisse détecter les navires illégaux, et donc on envoyait généralement des missions, des avions de l'état-major, et pour la première fois en 2017, on avait mis au point une tactique où on avait envoyé un drone aérien pour essayer d'aller reconnaître au-dessus de la mer les navires illégaux.
Alors c'était c'était quoi comme drone? C'était un mâle?
Non, c'était une société civile qui faisait de la location de drones, qui était beaucoup utilisée en Guyane pour surveiller par exemple la forêt. Vous savez qu'il y a un gros problème d'empaillage, et donc pour une fois on a essayé d'utiliser ces drones, ce qui a plutôt bien marché pour le coup.
Ok. Et alors, ça c'était le contexte. Et donc, en 2017, qu'est-ce qui se passe en juin 2017?
Donc les beaux jours reviennent. Les beaux jours reviennent et l'objectif, c'est de pouvoir frapper fort en début de saison des pêches pour affirmer notre présence et notre souveraineté sur la zone. Et donc, pour ça, nous avons monté une opération qui est une opération interarmée, puisque nous avons utilisé des gens de l'armée de terre pour l'écoute des fréquences des pêcheurs. Nous avons utilisé l'armée de l'air pour avoir des moyens de surveillance aérienne. Nous avons utilisé la marine nationale, mais c'était également une opération inter-administration, puisque vous avez dans cette opération différentes administrations, les affaires maritimes, mais aussi le procureur, puisque vous allez voir que toute cette procédure, il y a une procédure qui va se mettre en place, et in fine c'est le procureur qui va juger le capitaine. Nous avons dû mettre également des gendarmes pour pouvoir recueillir tous les équipages que nous allons prendre, et donc c'est une véritable opération inter-administration qui se prépare de longue date et qui nécessite une très grande coordination dans tous les services de l'État.
Oui, c'est-à-dire pendant toute la période, pendant toute la mauvaise saison, vous préparez votre coup et quand les jours arrivent...
Non, pendant la mauvaise saison, nous étions aussi à la mer.
D'accord.
Mais il est vrai que la pêche diminue légèrement. C'est de moins en moins vrai, mais il est vrai que durant la mauvaise saison, la mer est quand même plus dure. C'est plus dur d'être à la mer. Et donc, nous faisions aussi des sorties, nous étions présents. Mais là, nous savions, par des moyens de renseignement, qu'une grande flottille allait arriver.
Ah oui, d'accord, ils viennent en flottille. C'est pas individuel.
Ils viennent en flottille d'assez loin, et ils, plusieurs jours de mer, voire dizaines de jours de mer, ou un peu plus. Et on savait qu'il y avait eu des départs massifs de flottilles et qu'elles se retrouveraient chez nous.
Ah, mais alors du coup, qui dit flottille dit aussi... Enfin, j'imagine que s'ils sont en flottille, c'est pas que pour des raisons capitalistiques, c'est aussi parce que ils sont plus difficiles à saisir, quoi.
Exactement.
C'est pour se défendre dans une
Exactement.
Certaine mesure.
Qui dit flottille dit qu'effectivement, ils ont avec eux un effet de masse et que ça nécessite, pour les moyens de l'État, d'être suffisamment dissuasif face à toutes ces flottilles.
Alors du coup, vous n'allez pas les couler?
Non.
Vous n'allez pas en couler un pour l'exemple? Alors qu'est-ce que vous faites?
Alors, la première chose déjà, c'est l'appareillage. Les bateaux de la Marine nationale sont basés à Dégradécane, qui est l'ouvert d'un fleuve visible depuis la côte. Et donc, nous savions qu'il y avait des personnes qui renseignaient sur les mouvements de notre bateau. Donc déjà, il s'agissait de pouvoir appareiller en toute discrétion. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'appareiller la nuit, tout feu éteint. Pour appareiller la nuit, vous savez que en Guyane, nous devons appareiller au moment de la marée haute, 2 heures avant, 2 heures après. Donc les périodes d'appareillage sont quand même suffisamment courtes. Donc nous appareillons de nuit, en toute discrétion, sans aucune communication, sans rien émettre, pour pouvoir déjà garder un petit peu cet effet de surprise. Puis ensuite, il s'agit d'aller
se mettre... Donc là, c'est les deux patrouilleurs ?
Les deux patrouilleurs.
Où il y avait des gendarmes aussi ? Non,
les deux patrouilleurs. Okay. Mais également dans la phase de préparation, comme nous avions des renforts spécifiques, il s'agissait d'avoir des embarcations également un peu plus motorisées. Et donc, pour les embarquer à bord de nos unités, eh bien, nous faisons ici ça la nuit pour ne pas éveiller des soupçons.
Ah oui, c'est-à-dire des petites forces mobiles qui seront capables de prendre les bateaux.
Il faut
les planquer un peu parce que sinon
Exactement.
Ça va se voir et leurs soutiens, enfin leurs informants sur place vont les
Donc,
prévenir.
Donc toute cette phase, vous voyez, de préparation, elle est quand même très importante pour pas dévoiler notre dispositif. Donc on appareille en toute discrétion la nuit et là on va se positionner très loin au large, à proximité de la frontière. Et maintenant il s'agit
pour les
d'attendre.
Intercepter le plus vite possible.
Exactement.
Okay.
Maintenant il s'agit d'attendre le bon moment, de savoir qu'ils sont sur zone. Donc nous sommes très très loin par rapport
et il y en avait combien,
à
la
zone de pêche. Là, lorsque nous sommes intervenus, il y avait à peu près une trentaine de bateaux qui étaient dans nos eaux. Mais donc nous sommes très loin. On ne peut pas les avoir au radar parce qu'on se positionne vraiment loin. Et on sait de source sûre que les pêcheurs illégaux postent des hommes sur le toit des tapouilles avec des jumelles pour essayer également de nous intercepter à la vue. Dès qu'ils nous voient...
C'est la vigie, les choses ne changent pas tellement en mer depuis toujours.
Et donc, dès qu'ils nous voient, ils reculent et en fait, ils viennent se protéger de l'autre côté de la frontière, là où nous ne pouvons plus intervenir.
Alors, donc, il faut attendre qu'ils soient assez pénétrés.
Assez, exactement. Pour
les couper de leur issue.
De leur retraite.
Ouais. Okay.
À l'époque... de P400, la Gracieuse, c'était des bateaux qui avaient des moteurs un petit peu capricieux, qui parfois pouvaient faire beaucoup de fumée. Donc ça, c'était par exemple un désavantage, et donc il fallait prendre en compte également, de source sûre, a priori, les pêcheurs nous appelaient les fumeurs noirs, parce qu'ils voyaient notre fumée. Mais tout ça pour vous dire qu'on est dans un jeu de chat et de souris. Les bateaux de la Marine nationale sont le chat, et en face, vous avez quand même beaucoup de souris, qui sont très alertes et qui nous regardent en permanence et qui essayent de, également de se renseigner sur nos mouvements et de nous voir à la mer. Donc on venait se positionner très loin au large et là on voit différents moyens.
Et donc, puisque vous êtes très loin, j'imagine que vous allez bien plus vite qu'eux, mais il faut qu'ils soient pénétrés de combien, pour être sûr de pouvoir couper leur retraite et de pouvoir les coincer ?
Eh bien, c'est toute la difficulté. C'est de temps en temps... 5 nautiques dans nos eaux va suffire.
Donc 5 nautiques, ça fait 8-9
km. Ça fait 8-9 km à peu près. Lorsqu'ils sont à moins de 2 nautiques, c'est illusoire. Et de temps en temps, ils s'enfoncent entre 10 et 15 nautiques, donc jusqu'à quasiment 30 km dans nos eaux. Donc là, on a quand même une bonne garantie. Mais le jeu, justement, c'est de doser à quel moment est-ce que je vais lancer toute mon intervention pour être sûr d'intercepter des pêcheurs. Et donc, on se positionne très loin au large et là, on a différents moyens. On avait positionné des moyens de renseignement pour savoir, donc proche des côtes, pour voir les mouvements des navires illégaux. Nous avions des moyens aériens. Je l'ai dit, un drone, également des avions de l'armée de l'air. Nous avions également une équipe de l'armée de terre chargée d'écouter les interceptions HF. Donc haute fréquence de la radio.
Oui, ils communiquent à la VHF
Alors, pas à la VHF, mais aussi à la HF.
D'accord.
Et donc à la HF, puisque vous avez, c'est comme un peu partout dans le monde, vous avez un port qui a une fréquence HF, et tous les pêcheurs, en fait, se branchent sur la fréquence du port. Ce qu'on a appris durant nos différentes patrouilles, c'est que de temps en temps, ils changeaient la fréquence volontairement. Et donc, en fait, on avait des systèmes pour scanner en permanence toutes les fréquences et les intercepter. Et en plus de ça, nous avions des traducteurs, parce que bien sûr, ils ne parlent pas français, nous avions des traducteurs capables d'intercepter toutes les communications. Et donc, on a tout ce dispositif. Et là, pendant plusieurs heures, la tension va monter. on a la certitude qu'ils sont dans nos eaux, on n'a pas encore la position
exacte. Vous les avez au radar ou pas ?
Non. Ça, c'est uniquement de manière des informations parcellaires qui nous viennent des moyens aériens.
Alors pourquoi vous ne les avez pas au radar ? Parce qu'ils n'ont pas de réflecteur ?
Parce qu'on est trop loin.
Ah, parce que vous êtes trop loin.
Parce qu'on est trop loin par rapport à la position. Okay. Nous, on a des radars, si vous voulez, on a des radars qui sont des radars de navigation, qui ont une allonge sur l'horizon, à peu près 10 nautiques, mais ça, 10-12 nautiques, c'est sur des gros bateaux. Là, sur des bateaux de 10-20 mètres en bois, bas sur l'eau, vous les avez finalement qu'à 3-4 nautiques, 5 nautiques s'il fait très beau. Donc, non, vous ne les avez pas au radar. Donc, tout le monde, on est très loin, très éloigné de la position, la tension monte, on sait qu'ils sont dans les eaux. A priori, les renseignements nous disent que ils nous ont pas vus, enfin, on n'est pas dans la zone, donc ils ne vont pas s'attendre à nous voir arriver. Et à un moment, c'est le coup de poker. Il faut lancer l'opération. Et donc, là, y a une décision qui est prise. Je suis le chef du dispositif à la mer. Et je rencontre directement au général qui commande les forces armées en Guyane. Et je lui dis, voilà mon appréciation de situation. Nous avons plusieurs, voire beaucoup de pêcheurs illégaux dans nos eaux. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Nous avons tout le dispositif et armé prêt à être envoyé, vous demande de lancer l'opération. Le général prend sa décision. En même temps, comme c'est une action de police, et que cette action de police relève du Premier ministre, la personne qui a délégation, c'est le préfet de région en Guyane. Le préfet de région en Guyane. Et donc, nous avons le feu vert du général qui commande les moyens militaires, nous avons le feu vert du préfet, et là, on décide de lancer l'opération.
Il était quelle heure ?
Il était à peu près 15-16 heures. Donc on était plutôt en fin d'après-midi.
Ouais, mais du coup, j'imagine que l'enjeu, c'est de réussir à le faire avant la nuit, parce que ça sera plus
exactement.
Compliqué de les...
Exactement. Mais nous n'avions pas eu la confirmation exacte que nous avions effectivement tous les pêcheurs dans la zone avant le début d'après-midi à peu près.
Ok, mais alors question bête, mais vous êtes deux patrouilleurs.
Deux patrouilleurs et deux vedettes de la gendarmerie maritime.
Ok, donc quatre. Comment vous faites pour attraper 30 bateaux qui, j'imagine,
alors,
peuvent être...
Nous n'attrapons pas 30 bateaux. Nous sommes en mesure, chaque navire peut mener une opération de contrôle sur un bateau. Donc, au mieux, au cours de cette opération, nous ne pouvions intercepter que 4 bateaux. Okay. Mais nous avions avec nous des renforts pour pouvoir monter à bord des navires de pêche. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on ne s'imagine pas qu'en Guyane, on a un niveau de violence très très élevé. Au cours de nos opérations, lorsqu'on intervient...
Parce que quand ils arrivent à 30, ils arrivent armés aussi, quoi.
Exactement. Au cours de nos opérations, lorsqu'on intervient, ils mettent des filets autour de leur navire pour nous empêcher de monter à bord, donc on est obligé de couper ces filets. Ils nous jettent toutes sortes de choses... sur nos équipes d'intervention. Donc ils vont jeter des plombs, ils vont jeter des bouteilles de gaz, ils essayent de mettre le feu, ils jettent tout ce qui leur passe par la main. Ils ont des gaffes sur lesquelles ils viennent accrocher un couteau pour essayer de crever nos zodiacs. Et de temps en temps, il y a des armes à feu. Vous avez un niveau de violence qu'on n'imagine pas, et c'est une violence qui est endémique à l'Amérique du Sud, mais vous avez un niveau de violence extrêmement élevé en Guyane, et nous devons faire face à ce niveau de violence. Et les consignes, et ça c'est important, c'est que ça reste du poisson, et il est hors de question pour nous d'avoir des morts pour du poisson. Et donc c'est toute la difficulté, c'est de jauger, en fait, à quel moment on va pouvoir intervenir. Et si on arrive à les surprendre, eh bien... ils auront un niveau de vigilance un peu moindre et on pourra réussir à monter à bord.
Oui, alors que vous voulez dire, si vous voient arriver de très loin,
ils ont le temps de se préparer.
Puis ils vont se monter aussi.
Exactement.
L'angoisse va monter et du
Exactement.
Coup la violence va être, supérieure.
Ouais, exactement. Et donc, nous décidons de lancer l'opération. Là, nous avons deux embarcations surmotorisées avec une équipe spécifique capable de faire des actions de vive force contre ce type de navire, et ces navires partent à 40 nœuds pour intercepter plusieurs bateaux. Et donc là,
49,
vous avez...
on va juste le préciser, c'est énorme. En mer.
49 c'est, sur mer, c'est vous, c'est, vous volez c'est, au-dessus ouais. des vagues.
Et par ailleurs, on va préciser aussi que c'est toute la difficulté. Enfin, il faut des gens qui savent faire ça. Il y a très peu de gens
qui
savent faire ça, où que ce soit, et particulièrement dans les armées françaises. On va pas entrer dans les détails, mais il y a quelques unités qui sont spécialisées là-dedans. Et du coup, oui, c'est contingent à leur capacité à intercepter, relativement en douceur.
Exactement. Et donc là, vous avez une phase où vous avez ces équipes spécialisées qui vont intercepter un premier bateau. Et donc, le but, c'est de mettre la panique. Et donc là, on entend sur les fréquences HF qui sont surpris, qui ne nous attendaient pas à nous voir. Ça, c'est déjà un très bon point pour nous, parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas forcément préparés. Et ils s'aperçoivent que il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas comme d'habitude. Et effectivement, nos équipes spécialisées montent à bord du bateau, sécurisent le bateau, puis ensuite donnent le relais à ce qu'on appelle une équipe de visite, qui va constituer une équipe de prise. Une fois que ça a été fait sur la première tapouille, ça se passe, c'est moins de 10 minutes. De suite, on se réoriente, suivant les directives que je leur donne, on se réoriente vers une deuxième tapouille. Rebelote, ça dure à peu près 10 minutes. Puis une troisième. Et là, à partir de là, ça commence à se compliquer. Puisque...
Une équipe de visite, c'est combien de personnes ?
Une équipe de visite, c'est entre 6 et 10 personnes.
Okay.
Je reviendrai après sur la manière dont l'équipe de visite procède, mais c'est à peu près entre 6 et 10 personnes. Mais là, vous avez à peu près 30 minutes qui se sont déroulées pour faire 3 bateaux. Et pendant ces 30 minutes, la plupart des autres navires font route vers la frontière à la vitesse maximum. Nous, on essaye de venir leur barrer la route pour les empêcher de rejoindre la frontière.
Ouais, mais en même temps, vous n'allez pas leur tirer dessus, donc vous, c'est limité aussi, quoi.
C'est limité, mais en même temps, le but, c'est pas de tous les arrêter. Ouais. Et vous avez plusieurs bateaux qui viennent se regrouper, qui s'amarrent entre eux, et qui se dirigent pour s'échouer vers les petits fonds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, lorsque nous sommes dans ces opérations, les patrouilleurs calent à peu près 3,20 m de tirant d'eau, et on navigue dans 6 mètres d'eau, sur des fonds qui sont principalement de la vase, mal hydrographiés parce que c'est extrêmement mouvant à cause des courants marins, et donc vous êtes sur une zone où vous avez le sondeur qui sonne en permanence pour vous avertir que vous avez franchi votre limite de sécurité. Donc une des options, c'est soit la frontière pour les pêcheurs illégaux, soit les petits fonds. Ouais. Et après, attendre la nuit pour s'échapper en faisant vraiment du rascaillou.
Mais pourquoi ils s'amarrent entre eux ?
Et alors ils s'amarrent entre eux parce que ça permet encore d'avoir plus de personnes à bord. Et donc là, nous avons notre équipe spécialisée qui est venue le long d'un groupe de bateaux, ils étaient 4. Et là, ça a été un échange pendant à peu près 15 minutes où ces équipes spécialisées ont reçu sur la figure absolument tout. Des plombs, des cannes à pêche, comme des lances, comme je disais, des gaffes avec des couteaux, des bouteilles de gaz. Vous avez une violence extrême. Il n'empêche que...
Bon, mais il n'y avait pas d'armes à feu, c'est déjà ça.
Il n'y avait pas d'armes à feu. Nos équipes spécialisées étaient prêtes, mais il n'y avait pas d'armes à feu.
Oui, non, mais bon, par ailleurs, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas d'armes à feu, c'est que bon, quand on connaît un peu les unités qui sont capables de faire ce genre d'abordage et d'arraisonnement, vaut mieux pas leur tirer dessus, c'est pas une bonne idée, parce qu'ils sont plus forts à ça, en général.
Effectivement, mais ça reste quand même des opérations délicates. Et donc, sur le groupe de 4 bateaux, ils décident de s'aborder un de leurs bateaux et de le laisser à l'abandon, sans personne à bord. Et donc là, je me retrouve avec...
Et pourquoi ?
4 bateaux. Et ben, en fait, le but, c'était aussi de nous occuper. Ils avaient compris qu'on ne lâcherait pas. Et ça, c'est vraiment important. Ils avaient compris qu'on était là et qu'on ne lâcherait pas. Et donc, ils ont décidé de sacrifier un de leurs bateaux. Et donc, à ce moment-là, une des techniques également, c'est que une fois que l'équipe de prise est montée à bord, généralement, vous avez un pêcheur illégal qui descend très vite dans la cave, dans la cale, qui va s'aborder le moteur, et qui va également créer des voies d'eau à l'intérieur de la tapouille. Le but, c'est de faire couler le bateau, puisque lorsque l'équipe de visite arrive à bord, elle doit constater l'infraction qui est la pêche illégale dans les eaux. Et pour constater l'infraction, on rentre dans une procédure judiciaire où là, on est en communication avec le CROSS anti-Guyane, mais également avec le procureur, où on va compter le nombre de poissons. Donc, on a des fois des bateaux sur lesquels vous aviez entre 10 à 20 tonnes de poissons. Sur des poissons qui peuvent faire 4-5 mètres de long. On récupère également les vessies natatoires. Alors ça, c'est assez spécifique. Les vessies natatoires, c'est une petite vessie qui est dans les poissons, qui permet de régler l'immersion, si vous voulez, des poissons. C'est un peu comme un sous-marin, sauf que... et donc, en gonflant cette vessie ou en la vidant, le poisson change d'immersion. Et cette vessie natatoire aurait des vertus aphrodisiaques.
C'est ça qu'ils cherchent.
Okay. Et oui. Et donc, vous avez le poisson, mais vous avez aussi les vessies natatoires. Et donc, à bord de certaines tapouilles, vous avez des tonnes de poissons que vous comptez, que vous rejetez à la mer. Vous récupérez des kilos entiers de vessies natatoires. Et tout ça, en fait, ça constitue les preuves qui seront données dans la main du procureur et des gendarmes en retour à quai. Et donc, pour éviter que la marine française constitue ses preuves, les pêcheurs, parfois, viennent saborder leur bateau. Ça coule des fois en quelques minutes, des fois en plusieurs heures. Ça dépend si on a réussi ou pas à sortir le pêcheur de la cale. Mais dans le cours de cette opération, sur les 4 bateaux, 3 bateaux avaient été sabordés. Et donc, on a réussi à en récupérer 2. Et il y en a un qu'on n'a pas réussi, qui a coulé trop vite. Mais vous voyez, encore, c'est pas parce qu'on est monté à bord que l'opération est terminée. Et une fois qu'on est monté à bord, vous avez toute cette procédure qui se met en place pour caractériser l'infraction. Généralement, les pêcheurs sont mis dans un coin, sont serflexés. Une fois que...
Ils sont flexés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas menottés avec des menottes en
ferraille, mais
ils sont avec des liens en plastique.
Exactement, des liens en plastique. Et puis après, on relâche petit à petit la pression suivant, en fait, comment ça se passe. Généralement, quand l'opération est un peu terminée et qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à faire, la tension retombe très vite. Et là, ils n'ont plus rien à gagner. Donc, le but, c'est de... Maintenant, chaque équipe de prise va devoir ramener le bateau et l'équipage à quai à des gardes cannes. L'équipage sera donné...
Donc là,
donné...
il nous en reste 3.
Non, là, il nous en reste 3.
Okay.
Et donc, à chaque fois, il faut coordonner, en fait, tout ce retour. L'équipage va être donné à la police aux frontières et la police aux frontières va les ramener dans les pays d'origine.
Ah oui, vous ne pouvez pas les juger.
Non, on ne juge, sauf les gens qui ont fait acte de violence. Et pour... caractériser l'acte de violence, il faut avoir des films, des preuves. Donc, certains membres d'équipage qui ont jeté des plombs, n'importe quoi, et qu'on a réussi à prendre en photo ou en vidéo, eux sont jugés. Bon, généralement, ils se cachent aussi le visage, donc c'est quand même assez difficile, mais on y arrive. Mais
non, du coup, vous mettez pas les gens en prison pour pêche illégale, vous les juste, vous les renvoyez,
alors, quoi. Nous renvoyons l'équipage. En revanche, le capitaine du navire, lui, est jugé par la justice française.
Mais comment vous réussissez, que vous réussissez à l'identifier ?
Ah bien, en fait, généralement, on monte à bord et on demande qui est le capitaine du navire. Et puis, en récupérant un peu les papiers, les cartes d'identité, on essaye de corroborer entre la carte d'identité et le nom du patron du navire de pêche.
Oui, parce qu'il y a quelque part dans leur pays d'origine, quand même, où tout ça est immatriculé. Oui. Quand même. Ok, mais alors, du coup, la question, c'est... on fait le bilan de ça, est-ce que vous diriez que c'est extrêmement dissuasif? C'est-à-dire, si on fait, on a bien compris que l'opération était réussie, mais si on fait le bilan sur 30 bateaux, il y en a 3 que vous réussissez à intercepter, un quatrième qui coule, vous récupérez les équipages, bon, vous les remettez aux frontières. Et la question, c'est est-ce que ça réussit à les dissuader, par exemple, le coût financier des bateaux ou je sais pas quoi? Est-ce que ça suffit à dissuader les armateurs de revenir?
Ce que je disais en propos, au début de mon propos, c'est que le prix d'un filet, c'est à peu près la moitié du prix du bateau. Ouais. Là, vous aviez 30 flottilles qui avaient toutes leurs filets à l'eau. Pour remonter un filet, c'est à peu près entre 5 et 6 heures. Donc, lorsque nous sommes intervenus...
Et ils ont tous lâché leur filet.
Ils ont tous lâché leur filet. Et vous avez en Guyane 4 nœuds de courant. Donc, les filets partent. Et donc ensuite, vous avez une embarcation spécifique qui est un navire de la Marine nationale qui s'appelle l'embarcation remonte-filet, la Kawan, qui va avoir pour mission de récupérer tous les filets à la dérive. Et quand vous récupérez le filet d'un pêcheur illégal, vous, là, vous faites vraiment mal au portefeuille. Qui plus est, une fois que nous sommes à la frontière et que nous faisons des patrouilles de manière ostensible, ils n'osent pas pénétrer dans nos eaux. Donc oui, c'est dissuasif. Ces opérations sont dissuasives. Vous avez quasiment, pour les pêcheurs illégaux, 300 km de filets qui ont été perdus en une après-midi au cours de cette opération. Et donc, c'est extrêmement dissuasif et nous faisons mal au portefeuille. Mais, si nous relâchons la pression, on sait que ces pêcheurs reviendront. Et donc, notre but, c'est de savoir doser suffisamment intelligemment pour faire des opérations renforcées au bon moment, pour faire mal, puis ensuite d'être suffisamment présent de manière ostensible aux frontières pour les dissuader de venir, et ainsi de suite, on continue comme ça. Donc ces opérations, ce sont des opérations sont de vraies réussites. Là, nous avions intercepté 3 bateaux, quatre bateaux, on en a ramené 3 à dégradé canne. Mais nous avons également intercepté plusieurs kilomètres et dizaines de kilomètres de filets qui ont été perdus, et c'est une perte sèche. Et donc tout ça, pour les pêcheurs, il faudra le refinancer. Et ça prend quand même du temps et ça coûte de l'argent.
Et à l'échelle d'une saison, vous le voyez, c'est-à-dire, je sais pas, donc c'était en juin, vous les avez plus ou moins vus revenir. Est-ce que même vous graphez ça, est-ce que vous voyez les évolutions d'une année à l'autre, etc.
Oui, nous, ça c'est vraiment une des missions que nous menons en Guyane, d'essayer d'évaluer en fait le niveau de pêche illégale. Et donc en permanence, nous essayons, alors nous n'avons pas une permanence à la mer, mais nous essayons d'envoyer le plus possible de bâtiments. Parce que dès qu'ils voient un bâtiment, que ce soit de la marine nationale ou des affaires maritimes, ou de la gendarmerie maritime, généralement, ils s'enfuient. Et donc, en parallèle, nous envoyons des moyens aériens pour essayer d'aller compter les bateaux qui seraient dans les zones. Donc oui, tout ça, ce sont des processus que l'on suit. Et on a constaté que ces opérations, nous avions une décroissance assez forte de la pêche illégale, et puis après qui va remonter doucement, 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 jusqu'à la prochaine opération.
Et la tendance sur plusieurs années, c'est quoi globalement, Guyane ?
C'est assez variable. Ce problème de pêche illégale, il n'est pas tout jeune. Il date à peu près depuis les années 2000. Il y a eu des années avec de fortes influences de la part de pêcheurs illégaux, et puis des années où il y a une décroissance. C'est assez complexe d'identifier toutes les raisons, mais on sait que notre présence ostensible, dissuasive, à la frontière, permet de faire diminuer cette pêche illégale.
Très bien. Merci beaucoup, commandant Paul.
Merci.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.